S'il vous plaît. J'ai plus aucune autorité ou ça se passe comment? Merci. Question par rapport à l'interro de la semaine prochaine. De ce que certains parmi vous m'ont dit, il y a certains chargés de TD qui recommandent fortement, voire exigent le par cœur. Deux choses. D'abord, mes chargés de TD, mon équipe pédagogique a un cadre commun avec des règles que je pose, que je vous ai expliquées en séance, qui s'appliquent dans tous les groupes. Pour le reste, je les laisse souverains dans leur TD, ça me semble légitime. C'est pas... Il y a une logique pour moi aussi d'un travail de collaboration où ce n'est pas à moi de driver l'ensemble. Et ce type de règles, par exemple, où on vous inciterait dans certains groupes de... Si ça ne vous intéresse pas l'interro, moi je passe. Hein. Dans certains groupes de TD, inciter fortement, pour ne pas dire exiger, du par cœur. Bon, vous allez découvrir le fait que comme vous avez plusieurs enseignants en droit, parfois les méthodes divergent. Si on vous recommande du par cœur, a fortiori pour une interro de cours, c'est un peu différent, faites-le par cœur. Voilà. Ce que je vous dis, moi, c'est que pour l'examen terminal, à la fin du semestre, là, le par cœur, ça ne sert à rien. Si pour l'interro, on l'exige de vous, jouez le jeu. Mais vous allez voir que ça, les divergences de méthodes, elles vont exister tout le temps. Les méthodes qu'on vous appliquera au second semestre ne seront pas forcément les mêmes méthodes que ce qu'on a appliqué là, nous, en intro. Ça, il va falloir jongler un peu, c'est une gymnastique intellectuelle, ce ne sera pas toujours pareil. Au-delà de ça, pour l'interro de cours, à partir du moment où c'est des questions de cours, alors par cœur, moi j'ai toujours une difficulté, mais c'est des questions de méthode pédagogique. Hein. Si c'est exigé comme ça de vous, pliez-vous à l'exercice. Voilà. Mais dites-vous simplement que pour l'examen terminal, ça ne servira à rien. Examen terminal, je vous en reparle la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais qui, 9 chances sur 10, sera une dissertation sans document autorisé, c'est-à-dire pas de code, rien du tout. Dissertation, parce que ça me semble plus adapté en première année qu'un cas pratique. J'ai testé les deux et avec du recul, j'ai l'impression que le cas pratique, ça se prête mieux au second semestre, mais quand vous commencez, l'exercice de la dissertation est quand même un peu plus évident pour vous. Et sans document et donc sans code civil notamment, parce que je vous ai dit, il est possible que certains dans l'amphi ne soient pas en capacité d'acheter un code civil. Je ne veux pas que ça crée une rupture d'égalité entre mes étudiants. Ça ne sera pas du tout le cas au second semestre, hein, il le faudra sans doute. Mais là, en intro, quand vous commencez, comme ça vous permet d'étaler un peu les dépenses, il n'y a pas d'obligation d'en avoir un. Et comme la BU n'est pas en capacité de prêter 300 codes civils, par définition, je fais un choix qui est personnel et qui n'engage aucun de mes autres collègues, mais qui est de ne pas autoriser les documents. Aucun document, et quand je dis aucun document, c'est aucun document en papier et aucun document numérique, c'est-à-dire que si j'en chope un, je serai là hein, pour l'examen, si j'en chope un avec un téléphone, alors là-dessus, je ne rigole pas du tout sur la fraude, moi. Il y a des trucs où je suis plus souple, où je peux rigoler avec vous, où je... Les fraudeurs, je vais moi en comité de discipline, si ça se produit. Je dresse le PV moi-même de fraude en amphi et je ne vous lâche pas en commission de discipline. Pour une raison simple, en fait, c'est que je forme des juristes. Moi, les juristes qui trichent, ça me branche très moyennement. J'ai pas envie de faire de fraudeurs des avocats, ensuite, qui vont défendre des gens qui n'ont rien demandé, qui connaissent rien au droit, qui vont faire confiance à des gens qui ne sont pas capables de respecter des règles. Donc, si vous trichez, trichez de façon à ce que je ne vous chope pas. Parce que je vous rappelle que c'est 5 ans d'interdiction d'examen. Hein. Donc vous avez le temps d'être diplômé avec un M2. Ne jouez pas à ça. Voilà. Parce qu'en plus, c'est généralement pour récupérer une date d'un arrêt ou un truc où la Cour de cassation avait précisément dit ça. Ce que ça va changer à la marge, hein, c'est 0,5 sur la note peut-être. Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de prendre le risque. Donc là-dessus, vous êtes prévenus. Si je vous chope en train de tricher à l'examen, conseil de discipline direct. Je ne me pose même pas la question, je ne veux pas entendre que votre chat est mort la veille, que du coup vous êtes perdu, que... Rien, il n'y a rien qui m'intéresse là-dessus. parce qu'encore une fois, là, j'ai presque une approche éthique des choses. Je suis en train de former des juristes, des gens à qui, par définition, de toute façon, on va faire confiance. On va vous faire confiance dans vos carrières par la suite. Si vous n'êtes pas capable, vous, de respecter des règles sur l'absence de triche, vous ne méritez pas d'être diplômé, la question ne se pose pas. Voilà. Donc là-dessus, il faut que vous soyez, qu'on soit au clair et que les choses ne posent pas de débat entre eux. Ceci étant précisé, je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le second paragraphe, sur la question cette fois-ci de la personne morale. On a dit en introduction de la section, attention, la personne au sens juridique du terme, ce n'est pas exclusivement l'individu qu'on envisage comme la personne sensible, la personne de chair et de sang, si on prend l'expression traditionnelle, c'est aussi ce qu'on appelle les personnes morales. Et donc le paragraphe 2 est une occasion d'aborder cette caractéristique-là, cette qualification-là. La personne morale, c'est le groupement que le droit, le groupement pour l'essentiel, mais c'est l'entité que le droit reconnaît comme étant investie de la personnalité juridique. On parlera à ce moment-là de personnalité morale. Comme une personne physique, une personne morale, elle a des droits et des devoirs. La personne morale, elle est protégée par le droit, elle a un patrimoine, elle paye des impôts. C'est une personne avec sa personnalité juridique, qu'on appelle donc pour elle la personnalité morale, et qui est donc investi pleinement de droits qu'on identifiera par la suite. Et cette personne morale, elle a vocation à représenter l'intérêt collectif de ses membres. Vous la trouverez souvent qualifiée dans les ouvrages, notamment sous l'expression de fiction juridique. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction juridique ? C'est une projection de l'esprit humain, de l'intelligence humaine. Il y a une formule qui est employée dans à peu près tous les amphis de droit pour expliquer cette notion de fiction juridique. On ne peut pas déjeuner avec une personne morale. Voilà. C'est une fiction. Elle n'a pas de réalité sensible. Mais c'est une projection par l'intelligence humaine d'une réalité. Voilà. Une société, elle existe parce qu'on lui reconnaît, on la perçoit intellectuellement, à défaut de l'apercevoir physiquement, c'est pour ça que c'est une fiction, et donc on lui donne une réalité concrète en droit. Mais elle n'a pas de réalité concrète au sens matériel sensible. Une personne physique, vous pouvez la toucher, vous pouvez discuter avec, vous pouvez déjeuner avec, etc. Personne morale, tout ça, c'est pas possible, précisément parce que c'est une fiction, pour le coup. Alors, vous avez des formes très variées dans les personnes morales. On distingue d'abord, et on peut reprendre là pour le coup la division qu'on avait fait à propos du droit objectif, on distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Dans les personnes morales de droit public, vous avez l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les hôpitaux, etc. Et puis en parallèle, vous avez les personnes morales de droit privé. Alors là, il faut distinguer, il y a une subdivision à opérer. Vous avez des personnes morales de droit privé à but lucratif, les sociétés et les groupements d'intérêt économique, au premier titre. Et de l'autre côté, vous avez les personnes morales de droit privé à but non lucratif, les associations, les syndicats. Il y a le cas particulier des fondations qui est un peu entre deux. C'est des personnes morales qui ont pour objet, c'est pas la peine de le noter, hein, vous l'entendez comme ça, l'affectation permanente de biens à une œuvre d'intérêt général. Donc elles sont un peu entre deux. Ce n'est pas complètement un but non lucratif, mais ce n'est pas complètement un but lucratif non plus. Donc elles sont un peu à cheval entre les deux, sinon elles se départissent comme ça. But lucratif d'un côté, but non lucratif de l'autre. La personne morale, donc vous avez là la diversité des personnes morales qui peuvent exister, la personne morale est bien une personne. Donc son fonctionnement ressemble à celui d'une personne physique. La personne morale peut être responsable, sanctionnée, à l'inverse protégée par le droit. Ceci étant dit, son inscription dans le temps, elle est forcément différente de ce qu'on a vu pour la personne physique. On vient de dire que la personne morale est une fiction, qu'elle n'a pas de réalité sensible, elle n'est pas vivante, la personne morale, en tant que telle. Ça veut dire que par définition, elle ne peut ni naître ni mourir au sens biologique du terme. Donc, pour identifier le moment de sa création, et donc le moment de l'apparition de sa personnalité morale, et à l'autre bout du spectre, le moment de sa disparition, il faut envisager d'autres éléments. Alors, pour la naissance, entre gros guillemets, c'est-à-dire en fait l'apparition de la personne morale, il y a plusieurs possibilités en fonction des personnes morales que vous envisagerez. Parfois, on va retenir la date du contrat de société, c'est-à-dire la date du contrat qui crée la société. Et donc, la date d'apparition de la personne morale, ce sera la date à laquelle ce contrat de société a été conclu. Dans d'autres cas, on retiendra la date de l'immatriculation au RCS, donc le registre du commerce et des sociétés. Il y a une pluralité de dates possibles comme ça. À l'inverse, pour le moment de sa disparition, ça peut dépendre de la volonté de ses membres. Les membres, les associés, décident de dissoudre la société. Et dans ce cas-là, on a une dissolution qui s'opère. Ça peut être aussi par l'expiration du temps qui avait été prévu. On a prévu une personne morale pour 50 ans. Bah, à l'arrivée des 50 ans, hop, elle disparaît de facto. Et puis, il y a une caractéristique particulière de la personne morale par rapport à la personne physique, évidemment. La personne morale, encore une fois, étant une fiction juridique, elle n'a pas de réalité biologique. Donc, elle peut ne pas mourir. Là où c'est une impossibilité naturelle pour des personnes physiques, parce que la mort est impossible à contourner pour une personne physique, bah, elle n'est pas à partir du moment où il n'y a pas de réalité biologique qui s'impose à nous. Donc une personne morale peut ne pas disparaître. Vous avez des sociétés qui existent depuis des siècles. Voilà. C'est par définition pas le cas d'une personne physique, ça ne peut pas l'être. Une personne morale étant juste, entre guillemets, une fiction juridique, étant une fiction juridique, là, pour le coup, il est possible que cette personne morale ne disparaisse jamais. J'en vois certains prendre des photos, des slides. Ça ne me dérange pas du tout, hein, si ça vous rassure d'avoir les photos en plus, mais vous me confirmez que tout le monde reçoit bien les documents à l'issue des cours. C'est bon ? D'accord. Ok, voilà pour la personne morale et la personne physique. Je laisse de côté les éléments d'identification qui étaient annoncés dans le plan de cours de mémoire, mais qu'on ne traite pas ici, puisque vous verrez ça en droit des personnes. Donc je laisse ça de côté et je m'intéresse à une autre catégorie, qui est la catégorie des choses cette fois-ci. Alors, j'ai expliqué en introduction du chapitre que on avait une summa divisio, on avait une grande division qui permettait de répartir les personnes et les choses avec une frontière hermétique entre les deux. Donc on va revenir maintenant sur le détail des choses, la catégorie des choses, en reprenant aussi l'importance de cette frontière hermétique. Alors, pour plein de choses, la question ne se pose pas. Encore une fois, le fait de qualifier votre ordinateur, votre téléphone, peu importe, j'en sais rien, moi, votre sac à dos, de choses, là, la question ne se posera pas. Il y a deux catégories aujourd'hui où on s'interroge. Vous allez en reparler en TD, mais je dis quelques mots ici des enjeux du débat. Alors, la catégorie la plus historique sur laquelle on s'interroge, c'est la catégorie des animaux, dont je vais vous parler à l'instant. L'autre catégorie, c'est la catégorie des robots, ce qu'on envisage aussi par le prisme de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, d'abord sur la catégorie des animaux. Là-dessus, je vais prendre des précautions oratoires. Il s'agit à aucun moment pour moi, je vais formuler une critique de l'article 515.14 que vous avez là. Je vais vous expliquer comment il a été adopté et je vais essayer de vous donner un point de vue qui n'est pas forcément partagé par le reste de la doctrine. Alors la doctrine majoritaire est plutôt dans mon sens. Enfin, je suis plutôt dans le sens de la doctrine majoritaire. Mais il y a des auteurs aussi qui ont considéré que c'était un article très utile sur la symbolique. Moi, je crois que ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Précaution oratoire. Il ne s'agit évidemment pas pour moi, je le précise à toutes fins utiles, de dire que je me contrefiche du sort des animaux. Voilà. Ce n'est pas le propos ici. Et quand je vous dis qu'il faut essayer de se décaler un peu quand on est juriste et de prendre de la hauteur, bien sûr que le sort de la cause animale m'intéresse. Si on rentre dans des détails perso, j'ai un chien que j'adore. Personne ne me touche à mon chien. Mon chien est hyper cool. Mais juridiquement, c'est une chose. Il n'empêche que je lui parle comme si c'était une personne, mais ça ne regarde que moi dans ma vie de citoyenne et pas de juriste. Et je n'ai pas de problème avec cette espèce de schizophrénie-là. Voilà. Juridiquement, ce sont des choses parce que ce ne sont pas des personnes et que la frontière entre les deux est hermétique. une fois qu'on a précisé ça. Évidemment que ce sont des choses particulières. Alors, on a eu un certain nombre de débats à partir de 2014 et une volonté farouche de reconnaître que c'était la qualification qu'on a désormais à l'article 515-14 des êtres vivants doués de sensibilité. Voilà. Maintenant, c'est comme ça, à partir de 2015, c'est une loi de 2015, depuis la loi de 2015, c'est comme ça qu'on les qualifie. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ok. Second alinéa, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Alors, c'est une loi qui a été présentée comme étant une avancée. On reconnaît que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ok, on a une nouvelle qualification dans le code, on a une nouvelle loi qui vient s'ajouter, très bien. Quand on essaye de prendre un peu de recul, qu'est-ce qu'apporte la loi ? Rien. Si vous lisez l'alinéa 2, c'est un aveu d'inutilité, à mon sens, hein, quasi total. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Je traduis, sous réserve des lois qui existaient déjà, on maintient une qualification qui existait déjà. On continue à considérer les animaux comme des choses, sous réserve des lois qui les protègent et qui sont antérieures, qui existaient déjà. On n'a pas attendu la loi de 2015 pour protéger les animaux. Voilà. Ça existe de très longue date. Mais maintenant, on a un texte pour nous dire « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». On le savait déjà. Alors, on n'avait effectivement pas cette qualification-là. Des êtres vivants doués de sensibilité. Mais c'est mon job de commencer à vous apprendre ça. Et vous apprendrez par la suite qu'une qualification, elle n'a de sens que si elle fait découler un régime. Les qualifications, il faut les voir comme des tiroirs en droit, en fait. Vous rangez dans tel tiroir, mais parce que ce tiroir-là répond à cette règle-là. Et là, ok, très bien. Là, qu'est-ce qui nous apporte le texte ? Rien. On continue à les considérer comme des choses, parce que quand vous soumettez un élément à un régime de bien, c'est que par définition, ça n'est pas une personne, donc c'est une chose, sous réserve des lois qui les protègent et qui existent déjà. L'animal n'est pas une chose comme les autres. Dans quelques instants, tout à l'heure, on parlera un peu du droit de propriété et on verra que dans votre droit de propriété, vous avez l'abusus. Une des prérogatives, un des pouvoirs qui va avec le droit de propriété, c'est ce qu'on appelle l'abusus. L'abusus qui vous permet notamment de détruire la chose dont vous êtes propriétaire si vous avez envie. Je sors de l'amphi et j'ai l'impression d'avoir été vraiment nulle cette fois-ci et je pique une colère et je balance mon téléphone contre un mur et je casse mon téléphone. Ça m'ennuierait un peu dans l'absolu, mais c'est un coup de sang. Ça n'engage à rien, c'est mon téléphone. À moins que je l'ai jeté sur un étudiant, et là, la qualification juridique change tout. Si je l'ai balancé contre le mur, bah, j'ai exercé mon abusus sur un coup de colère. Si on prend les vidéos des... Alors là, je vais essayer d'être prudente sur les termes que j'emploie. Mais des gens qui ne sont pas complètement finis intellectuellement et qui se filment sur TikTok en train de balancer des chats contre des murs, ça circule, ces vidéos-là. C'est pas du tout la peine d'aller les chercher. Hein. Si les réseaux sociaux vous ont épargné ça jusqu'à présent, continuez, mais ces vidéos-là, elles existent. Évidemment que ça n'a plus rien à voir. Et que là, il y a des sanctions pénales qui sont encourues. Il y a des dispositions dans le code pénal qui répriment notamment les actes de torture et de barbarie à l'égard des animaux. Ces dispositions-là, elles existent depuis longtemps. Vous verrez, je laisse ça à mes collègues pénalistes parce que je suis bien contente de ne pas avoir à traiter ça avec les étudiants en amphi. Il y a un arrêt que les pénalistes vous balancent à peu près à chaque... S'il vous plaît. Que les pénalistes vous balancent à peu près à chaque fois en fiche de TD quand vous faites du pénal, qui est l'arrêt du viol du poney, je ne me souviens plus, du junior, il s'appelait, je crois. Et vous avez les détails, évidemment, dans l'arrêt de cassation. Donc je vous les passe, moi, les détails, je reste en dehors de ce truc-là. Mais on va prendre des trucs très concrets, hein. J'en sais rien, moi, si ça vous plaît de violer vos chaussures, d'avoir un rapport sexuel avec vos paires de chaussures. C'est par définition pas un viol, je me suis mal exprimée, mais une pratique sexuelle avec vos chaussures, ou peu importe ce qui vous fait plaisir, hein, votre canapé, ça n'engage que vous. Et il n'y a d'attente à rien. La chose inerte sur laquelle vous avez pratiqué une activité sexuelle, n'a pas à être protégé. Si vous faites la même chose sur un hamster, ouais, l'exemple du hamster n'est pas forcément le mieux choisi, mais c'est parlant. Là, le deal juridique n'est pas le même. Voilà. Quand je vous dis parfois, sous couvert de bonne volonté et d'apport juridique et législatif, on crée des règles qui ne servent à rien. En fait, 515-14, n'apporte rien. La qualification juridique qui est posée des êtres vivants doués de sensibilité, on le savait déjà partout. C'est pour ça que si vous avez un rapport sexuel avec votre canapé, vous craignez rien, alors que si vous faites pareil avec le poney, ça donne un arrêt de cassation. On le savait que ce n'était pas une chose comme les autres, et que sous réserve de ces lois-là qui protègent particulièrement, parce que ce sont des êtres dotés de sensibilité, ça reste des choses. Pour l'importance de la qualification que je vous ai expliquée, de l'hermétique entre les choses et les personnes. Non, les animaux ne sont pas des personnes, puisque ce ne sont pas des personnes, ce sont des choses, parce que là, on a un raisonnement exclusivement dual, il n'y a pas de catégorie intermédiaire, il n'empêche que ce n'est pas des choses comme les autres. Voilà. L'autre catégorie, et encore une fois, je le répète, mais il ne s'agit vraiment pas pour moi de dire qu'il faut considérer les animaux comme des choses. Ça n'a rien à voir. Rien. Mais juste, c'est forcément l'un ou l'autre, et ce n'est pas des personnes. Bon, bah, du coup, forcément, c'est des choses, avec des règles particulières qui s'appliquent. L'autre catégorie, c'est la catégorie des robots. Alors là, les raisonnements sont plus prospectif pour beaucoup, c'est-à-dire tourné vers l'avenir. On se pose de plus en plus la question de ce qu'on appelle des IA fortes, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui s'autonomisent et qui arrivent à raisonner indépendamment de l'humain. Alors il y a quelques exemples comme ça, hein, et il y a des exemples qui font réfléchir pas seulement les juristes, hein, un peu dans tous les domaines. Il y a notamment eu un truc récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais deux intelligences artificielles qui ont réussi à dialoguer entre elles en créant un langage que l'humain n'arrive pas à comprendre pour l'instant. Donc on commence à développer des IA fortes. Pour beaucoup, en réalité, les IA aujourd'hui, ce n'est pas des IA fortes, c'est ce qu'on appelle des IA faibles, c'est-à-dire des IA qui restent sous le contrôle de l'humain. Et dans les réflexions prospectives qui se posent, il y a beaucoup de science-fiction aussi. Voilà. On visualise les robots comme étant complètement indépendants et le cas échéant que ça dérape comme dans Matrix et qu'on se retrouve sous la domination des machines. On n'y est pas. On n'y est pas et pour l'instant, la question de considérer, s'il vous plaît, la question de considérer l'intelligence artificielle comme autre chose qu'une chose, elle n'a pas de raison d'être. L'intelligence artificielle, on le tourne comme ça parce que ça fait hyper moderne et que je vous dis tout de suite, on projette les robots et la guerre entre l'humanité et le monde robotique. Bon, en fait, c'est des logiciels. Hein. Voilà. Alors, c'est des logiciels de plus en plus compétents, incontestablement, mais ça reste des logiciels. Voilà. Sur ces deux catégories, que ce soit les animaux ou les machines, les robots, les intelligences artificielles, le terme le plus adapté, c'est sans doute celui-là, d'intelligence artificielle. Il faut d'une part se garder de remettre en question trop facilement la distinction qui me paraît absolument essentielle, nette, entre les personnes et les choses, pour les raisons qu'on a explicitées précédemment. Et ensuite, c'est bien joli tout ça, et on a l'impression d'apporter son apport au droit en disant « Non, mais il faut une catégorie alternative. » Voire, vous avez certains des auteurs qui vous disent presque « Il faut reconnaître une personnalité juridique au robot. » Ok, d'accord. Admettons. Et derrière, on en fait quoi ? Vous avez peut-être vu passer ça. Alors, c'est pareil, vous êtes jeune, je ne sais plus quand est-ce qu'il est mort, mais quand Lagerfeld est mort, il y a eu tout un truc autour de sa chatte, Choupette, parce qu'il avait voulu que Choupette soit son héritière. Sauf que manque de bol, en fait, ne peuvent être des héritiers d'un défunt que des personnes. Donc ce qu'il a fait en réalité, c'est qu'il a organisé sa succession de façon à ce que des personnes soient désignées pour prendre soin de Choupette et d'être... Mais Choupette n'a pas été héritière. Pour une raison simple, c'est que comment est-ce qu'elle exerce ses droits ? Parce que c'est ça le problème qu'il y a derrière aussi, à vouloir personnifier des choses qui sont des choses, on fait quoi ? une fois qu'on a le cas hypothétique où on a reconnu la personnalité juridique aux intelligences artificielles, aux animaux, etc. Sur l'exercice de la personnalité, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et alors moi, j'ai des difficultés, c'est personnel, hein, mais j'ai des difficultés avec les rapprochements qui sont faits en disant « Bah oui, mais il y a bien un régime que vous verrez quand vous ferez du droit des personnes, mais un régime des personnes vulnérables, vous connaissez les mécanismes de tutelle, de curatelle, etc., où on exerce pour vous, bah on peut faire pareil pour les animaux, les choses, les IA. » Le rapprochement avec les personnes vulnérables, là, me semble pas hyper pertinent. Je crois que l'humanité dans la personne physique n'est pas inutile et que le rapprochement avec les personnes vulnérables ne sert pas à grand-chose, hein, parce qu'encore une fois, l'exercice des droits sur la chose qu'est l'animal, on peut le faire, mais c'est une chose. Et je ne suis pas sûre de l'opportunité d'un rapprochement avec le droit des personnes vulnérables. Mais parfois, c'est proposé. En réalité, c'est sur l'exercice que ça coince aussi. La création de nouvelles règles, ok, très bien, mais demain, vous investissez mon chien d'une personnalité juridique. Qu'est-ce qu'il va en faire ? L'enjeu, c'est quoi ? Parce que c'est ça, encore une fois, il n'y a pas qu'une question de qualification, c'est le régime, l'exercice qui va derrière. Si mon chien est reconnu demain comme une personne, il n'exercera pas ses droits. Voilà. Je continuerai à les exercer pour lui, parce que par définition, pour le droit, je suis propriétaire de cette chose particulière qu'est mon chien. Voilà. Et c'est pareil pour vous. Donc il faut faire gaffe avec ce genre de truc. Et évidemment, c'est habillé derrière un truc de la protection animale. Et en fait, si vous êtes contre, c'est que vous êtes contre la protection animale. Ben non, pas du tout. Mais on raisonne juste sur les meilleurs éléments pour assurer cette protection. Et je ne suis pas sûre que la reconnaissance d'une catégorie entre deux, elle assure une protection plus grande, ça ne change rien. Et qu'elle ne vienne pas un peu brouiller la distinction nette entre les personnes et les choses. Ça, c'est pour les objets de débat. Une fois qu'on a exclu ça, il y a des qualifications qui s'appliquent aux choses. Il y a des qualifications qui permettent de distinguer les choses. Et il y a plusieurs distinctions possibles. Je vais vous expliquer ces différentes distinctions. La première, vous pouvez mettre des petits points dans votre cours à chaque fois. La première possibilité de distinguer les choses entre elles, c'est sur le critère de l'appropriation. Par définition, une chose, c'est un objet de droit, donc elle a vocation, le cas échéant, à être appropriée. Mais pas tout le temps. Et ça va nous permettre d'avoir 3 degrés, en réalité, en fonction du degré d'appropriabilité, donc de la possibilité de s'approprier, ou d'appropriation. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les choses communes. Alors, les choses communes, par définition, elles sont communes à nous tous. Et en fait, puisque tout le monde en est propriétaire, personne n'en est propriétaire. Voilà. Les choses communes, c'est les choses qui ne sont pas susceptibles d'appropriation parce qu'elles appartiennent à tout le monde. Exemple, l'air qu'on respire. Voilà. Je vous ai dit, tout est forcément personne ou chose. Bon, bah, l'air, c'est pas une personne, donc c'est une chose. Mais c'est pas une chose appropriable. L'air qu'on respire, il est à tout le monde, donc il n'est à personne. Parce qu'il est à tout le monde, personne ne peut se l'approprier. Donc, la chose commune, c'est une chose non appropriée, non appropriable. Notez ce doublon-là. Elle n'est pas appropriée parce qu'elle n'est pas appropriable. Deuxième catégorie, je bois une seconde, j'ai la gorge. Pardon. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des choses sans maître. Alors, les choses sans maître, on vient de dire la chose commune, c'est la chose non appropriée, non appropriable, pardon. La chose sans maître, on passe un degré. Donc la chose sans maître, c'est la chose non appropriée, mais appropriable. Pour elle, c'est possible d'envisager une appropriation. Mais au moment où on parle, elle est précisément sans maître. Et là, quand on utilise la notion de maître, c'est une notion que vous retrouverez en droit des biens en 3e année. C'est le maître au sens du dominus romain, c'est-à-dire le propriétaire. Quand on parle de choses sans maître, en fait, on parle de choses sans propriétaire. La notion de dominus, qui se traduit donc par maître en français, elle est utilisée en droit romain des biens pour parler du propriétaire. Donc, encore une fois, la chose sans maître, ça veut dire la chose qui n'est pas appropriée, donc qui n'a pas de propriétaire. la chose sans propriétaire. Donc, vous voyez, on a passé un degré. Elle, certes, elle n'est pas appropriée, mais elle est susceptible d'appropriation. Elle est appropriable. Exemple, on vient de dire que les animaux étaient des choses. Le gibier. En l'état, le gibier, c'est à l'état sauvage, donc il n'est pas approprié, mais il est susceptible de l'être. Voilà. Donc ça, c'est des choses sans maître. Troisième catégorie, on monte encore d'un degré, et là, vous avez sans doute compris, on a vu non approprié, non appropriable, c'est les choses communes, on a vu non approprié, mais appropriable, c'est les choses sans maître. Dernière catégorie, les choses appropriées, c'est les choses appropriables et appropriées. Voilà. Les choses appropriées, c'est les choses qui sont détenues par un propriétaire. N'importe quel, lequel des biens que vous avez en votre propriété avec vous. Voilà. Avec vous ou à la maison, peu importe. Ou dont vous êtes propriétaire. Donc il y a trois degrés quand on raisonne par rapport à ce double critère de l'appropriabilité-appropriation. Ensuite, il y a d'autres distinctions possibles. C'est des catégories un peu techniques, mais qu'il faut connaître parce que c'est des catégories qui vous resserviront. Alors, d'abord, les choses corporelles, incorporelles. On en a déjà un peu parlé sans le dire vraiment. C'est l'occasion de revenir sur la catégorie. La distinction selon la corporalité. Est-ce que la chose existe matériellement ? Est-ce qu'on peut la toucher ? C'est rien, moi. Des fruits, une maison, un suite que vous avez sur le dos, là, les chaises dans l'amphi, tout ça, c'est sensible au sens de ça, une réalité matérielle, corporelle. Ça peut être touché. Et puis à côté, vous avez des choses incorporelles, immatérielles. Je reprends mon exemple classique, l'œuvre de l'esprit. Je crée un film, une chanson, c'est de l'immatériel. Je suis propriétaire de l'œuvre. Ce qui explique. Alors avec la numérisation, les supports sont de plus en plus en démat, mais vous allez à la FNAC et vous achetez un CD, un jeu vidéo sur CD, peu importe, un film sur DVD ou Blu-ray. Vous êtes propriétaire de l'objet matériel corporel, vous. Voilà. Votre propriété à vous, quand vous avez procédé au contrat de vente, c'est cette propriété corporelle. Le DVD, il est à vous. Il n'empêche que si vous le copiez et que vous le mettez en ligne, vous êtes contrefacteur. Parce que le DVD est à vous, mais ce qui l'abrite, qui est l'œuvre de l'esprit, qui, elle, est incorporelle, vous n'avez aucun droit dessus. Vous avez le droit de visionner le CD que vous avez acheté, d'écouter, de jouer, peu importe ce que vous avez acheté. Si vous reproduisez l'œuvre qui est sur le support, vous êtes un contrefacteur. Parce que votre propriété se limite au corporel et qu'elle ne vous donne aucun droit sur la dimension incorporelle. C'est la même chose et parfois, ce n'est pas bien connu, ça. Vous achetez un tableau dans une brocante, dans une vente aux enchères, peu importe, dans une galerie à Paris. Hein. Et puis, vous reproduisez l'œuvre qui est sur ce tableau sur des t-shirts. Ben, vous êtes contrefacteur. Vous avez acheté le support corporel de l'œuvre, mais à moins d'avoir en plus un contrat de cession des droits sur l'œuvre, où là, vous deviendriez titulaire des droits sur l'œuvre, la propriété de l'œuvre, elle ne vous revient pas du tout. Elle reste à l'auteur ou, le cas échéant, à celui à qui il a cédé ses droits. Mais l'œuvre, elle ne vous revient pas à vous. Vous n'êtes propriétaire que du support. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut identifier, la différence entre les choses corporelles et les choses incorporelles. Dans les choses incorporelles, vous pouvez mettre d'autres choses. Les marques, les inventions, les clientèles, tout ça, c'est des choses incorporelles. Il y a une titularité, on parle plus de titularité que de propriété quand c'est de l'incorporel. Il y a une titularité dessus, mais ce n'est pas sensible. L'œuvre de l'esprit, je ne peux pas la toucher. Je peux toucher le support du DVD, mais ça n'a rien à voir. Ou le tableau, mais c'est le support. L'œuvre de l'esprit elle-même, la création intellectuelle de l'auteur, elle est immatérielle. Voilà. Et malgré tout, elle est reconnue par le droit, elle est protégée comme telle par le droit. Donc ça, c'est la première catégorie, choses corporelles, choses incorporelles. Ensuite, il y a la catégorie des choses consomptibles, non consomptibles. Alors, là, on fait la distinction en fonction de la disparition à l'usage. Il y a certaines choses qui disparaissent quand vous les utilisez. Les aliments. Les aliments ne peuvent pas faire l'objet d'une location, par définition, parce qu'une location, vous avez vocation à rendre le bien après usage, et que pour des aliments, bah, les aliments, une fois qu'ils ont été utilisés, vous les avez mangés, vous ne risquez pas de les rendre. C'est des choses consomptibles. Elles sont consommées au premier usage. Elles ne peuvent donc servir qu'une fois, ces choses-là. À l'inverse, les choses non consomptibles, c'est les choses qui peuvent faire l'objet d'utilisation répétée. Attention, quand bien même elles perdraient en valeur au fur et à mesure des usages successifs. Une machine à laver qui date des années 2000, peut-être qu'elle marche encore aujourd'hui, d'ailleurs peut-être qu'elle ne marche plus, ça ne change pas grand-chose, en tout cas elle a été usée par les usages successifs, malgré tout c'est bien une chose non consomptible. Elle n'a pas disparu au premier cycle de machine que vous avez fait tourner. Voilà. Donc il faut bien faire le distinguo entre les choses consomptibles et les choses non consomptibles, notamment parce que quand vous ferez du droit des contrats en deuxième année, vous verrez que certains contrats ne sont pas possibles pour certains types de choses. Exemple, vous ne pouvez pas conclure de contrat de prêt, donc une location, pour des choses consomptibles. Ça n'aurait pas de sens. Puisqu'un prêt, c'est un contrat qui vous permet de vous servir de la chose à charge pour vous, de la restituer ensuite. Sur des choses consomptibles, vous ne pourrez pas restituer. Donc il n'y a pas de contrat de prêt sur des choses consomptibles. Donc la distinction, elle sert notamment à ça. Ensuite, dernière distinction fondée sur les caractéristiques de la chose, la distinction entre les choses fongibles et non fongibles. Alors, les choses fongibles, c'est les choses de genre. C'est-à-dire les choses qui peuvent se peser, se compter, se mesurer, vous l'avez au tableau, hein, et qui sont interchangeables à qualité égale. Exemple, vous êtes propriétaire d'une tonne de charbon ou d'une tonne de céréales. Que ce soit cette tonne-là, précisément identifié, ou la tonne d'à côté qui présente exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes qualités, ça ne change rien. Les deux tonnes que j'ai face à moi sont interchangeables dès lors qu'elles ont les mêmes qualités. C'est ce qu'on appelle des choses de genre. Peu importe que ce soit cette tonne-là, celle d'à côté, celle du voisin, etc., dès lors que c'est la même qualité, elles sont interchangeables en l'état. À côté de ça, vous avez les corps certains. Là, c'est des choses individualisées et qui ne sont pas susceptibles d'être interchangées. Alors, parfois, c'est compliqué à identifier. Combien, là, roule sur Apple avec les ordi à main levée? C'est une mafia. Je ne comprendrai jamais, mais c'est perso. Dans l'absolu, vous avez sans doute tous... Certains parmi vous, en tout cas, les mêmes machines. Voilà. Vous avez acheté le même ordi, avec la même mémoire, etc. Et on pourrait se dire, du coup, bah, c'est interchangeable aussi. Non, ça n'a rien à voir. Ces choses-là, elles sont individualisées. Vous avez acheté cet ordinateur-là, vous avez reçu cet ordinateur-là, c'est le vôtre. Il n'est pas interchangeable à qualité égale avec le même ordinateur. C'est votre ordinateur à vous. Si on vous en met deux sous les yeux, il y a le vôtre et celui du voisin. Voilà. Il faut bien faire le distinguo entre les corps certains et les choses de genre. Choses de genre, peu importe, ça ne change rien. Et le même. Je m'étais approprié cette tonne-là et puis finalement, c'est interchangé avec l'autre. Ça ne change rien. Les corps certains, ils sont précisément identifiés. Voilà. Vous avez eu cet ordinateur-là. Précisément identifié, et donc à partir de maintenant, c'est votre ordinateur, et il n'y a pas d'interchangeabilité. Tout ça, c'est pour les distinctions fondées sur les caractéristiques de la chose. Ensuite, et on en terminera par là avec les distinctions, je fais juste l'introduction... Attendez, quelle heure ? Ouais, je fais l'introduction et je fais les catégories après. Une très grande distinction entre... les meubles et les immeubles. Est-ce que vous avez vu passer, je vais essayer de la trouver, la vidéo de Manon Aubry d'hier? Je n'exprime ici pas le moindre jugement politique. Ça m'amuse, c'est tout. Une seconde. Il y en a certains qui l'ont. Laissez-moi 10 secondes sur Twitter, je vous la trouve. Mais parce que ça vaut le coup aussi. Non, mais parce que blague à part, on rigole. Encore une fois, Je ne donne là aucune...